Bonjour. Cela fait 9 ans que je prêche et dans 9 ans, je n'ai jamais abordé un sujet aussi délicat, sujet à la polémique et à la contradiction que celui que je vais aborder ce matin. Je ne vais pas passer par 4 chemins. Je voudrais aborder ce matin le rôle de l'épouse dans le foyer. Il y a quelques années, j'ai abordé le rôle du mari dans le foyer. Vous devriez trouver normalement, je pense, l'enseignement encore sur le site de l'Église, et je réaborderai au sein de ce message aussi les points essentiels, parce que parler du mari sans parler de... Enfin, vous voyez, enfin, voilà, ça ne va pas. Alors, je vais faire ce que je ne devrais pas faire. Vous allez comprendre pourquoi je me tire presque une balle dans le pied en faisant ça, c'est que nous allons tout de suite lire le texte concerné. Je vous propose de lire avec moi Éphésiens 5, les versets 22 à 24. Femmes, soyez soumises, chacune à votre mari, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le Sauveur. Comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent en tout, chacune à son mari. Voilà, vous voyez pourquoi je n'aurais pas dû faire cela. Je sais que dans vos esprits, de nombreuses idées se bousculent. J'ai été militaire et il me reste mon casque lourd et j'ai presque hésité à le prendre et le mettre sur ma tête pour faire cet enseignement aujourd'hui. Et je tiens à dire que je ne règle aucun compte avec Marion, mon épouse, qui est dans la pièce. Je lui ai fait valider ce que je vais vous partager ce matin. Donc je sais qu'au moins à la maison, je ne risque rien. Si vous êtes présent pour la première fois au sein de notre Église, forcément, vous êtes déjà en train de bouillir. Si c'est votre première approche de la Bible, que vous n'avez jamais plongé vos regards dans un texte de la Bible, vous vous dites « mais je suis tombé dans une caricature de ces mauvais films où il y a le prédicateur fondamentaliste totalement arriéré qui vit dans un autre temps et qui est là pour véhiculer une vision terrible de la femme ». Mais je vous en supplie, prêtez-moi un peu de crédit, de bienveillance et d'écoute, et je suis prêt, je veux relever le challenge, en tout cas pas moi, mais je crois que les Écritures, la Bible elle-même, vont relever le challenge de vous convaincre que ce que je dis est bon pour chacun d'entre nous. J'ai toutes les raisons de ne pas aborder ce sujet ce matin, vu le contexte dans lequel on vit en ce moment. Nous avons tous à l'esprit probablement le scandale d'harcèlement sexuel qui a touché Harvey Weinstein, le célèbre producteur propriétaire de Miramax, accusé par plus de 80 femmes d'agression sexuelle, et toutes les campagnes sur les réseaux sociaux de dénonciation de harcèlement sexuel que subissent les femmes au quotidien, Balance ton porc, MeToo, etc. Les frotteurs dont on parle maintenant dans les transports en commun, ces hommes qui se permettent de coller les femmes et d'avoir envers elles des agressions sexuelles, il faut nommer ça tel que c'est. L'inégalité scandaleuse qui subsiste dans des entreprises où pour le même poste, une femme est moins payée que le mari à poste égal. Violence physique et ou sexuelle de la part du conjoint. Selon le chiffre du secrétariat d'État à l'égalité entre l'homme et la femme, 225 000 cas par an déclarés. Et on sait que la majorité ne le sont pas. Bref, malheureusement, ce sujet cristallise en ce moment beaucoup d'attention et sur les plateaux télé, les plateaux radio, nous voyons les différents journalistes, chroniqueurs, hommes politiques qui se déchirent et qui cherchent à trouver une réponse à cela. Et en tant que chrétien, et là, je sais que je peux parler au nom de mon Église, de vous tous que je connais ici. Nous espérons que ces scandales et les campagnes qui découlent et la parole qui se libère vont pousser de nombreux hommes qui sont concernés par ces comportements odieux dans notre société, si ce n'est à changer leur regard et changer leur cœur, au moins limiter leur comportement et manifester le respect qui est dû aux femmes. Et dans ce contexte, pas étonnant que le féminisme agressif, que les théories du genre, que les adeptes des normes sexuelles qui doivent être revisitées trouvent de plus en plus d'écho dans les médias et offrent des solutions qui semblent séduisantes face à ces violences inadmissibles. De leur côté, les religions ont l'air totalement arriérées, ancrées dans des traditions des siècles passés, d'un patriarcat machiste, d'un autre temps, où au nom de Dieu, on fait subir aux femmes tout et n'importe quoi. D'ailleurs, le texte que je viens de lire et qui est affiché ici à l'écran, n'a-t-il pas concouru à opprimer des femmes dans notre Europe avec son arrière-plan judéo-chrétien, duquel nous essayons, en tout cas notre pays essaye de se démarquer le plus possible depuis ces dernières décennies? Vous voyez pourquoi je pars avec un désavantage, c'est que le nombre de préjugés, de présupposés que nous avons est immense. Mais vu les enjeux dans notre société, dans l'Église, dans chaque famille, il me semble indispensable de démontrer que le problème ne vient pas de Dieu, le problème ne vient pas de la Bible, le problème vient du cœur de l'homme. Le problème vient de nous. Bien au contraire, les textes qui traitent du mariage nous sont donnés pour nous permettre de vivre dans ce monde brisé, dans ce monde corrompu où tout ce que Dieu a donné à l'homme est détourné, en revenant aux Écritures, en faisant confiance à ce que Dieu a créé pour l'homme et la femme, nous pouvons restaurer, réparer les relations qui sont brisées, que ce soit dans le mariage ou dans tous les autres cadres. Les couples chrétiens doivent tendre à être des modèles qui illustrent ce que les femmes souhaitent vivre, ce pour quoi elles ont été créées, et leur épanouissement et leur enrichissement, et ce que les hommes veulent honorer et ce pour quoi ils ont été créés. Ils doivent être une source d'inspiration et d'espoir dans un monde où la guerre entre les sexes est ouverte, où les divorces se multiplient d'année en année, où les présupposés, les préjugés, où tout éclate. Les couples chrétiens sont donnés par Dieu dans le monde pour être des repères qui donnent envie et espoir. Bon, ça, c'est dans le plan de Dieu, dans la réalité. Quelle que soit votre situation, votre âge, ce texte vous concerne, que vous soyez homme ou femme, en couple ou non. Nous sommes tous concernés puisque toutes les Écritures sont données à toute l'Église et que nous ne sommes pas appelés à vivre en autonomie chacun dans notre coin, notre foi, mais que nous avons besoin des encouragements, des conseils, des recommandations les uns des autres et d'être aidés pour vivre ensemble selon la volonté de Dieu. Je précise encore une fois que je ne vais pas aborder la question de la position de la femme dans l'Église ou dans la société. Le texte dont je parle situe le rôle de la femme dans le couple. Et pour comprendre les enjeux, il faut analyser et trouver la solution que donnent les Écritures, le sens qu'elles donnent et l'espoir qu'elles donnent. Et pour cela, je vous propose d'avancer ainsi. Il faut d'abord revenir à la définition de la soumission selon la pensée de Dieu. Revenir à ce que Dieu lui a dit. Ensuite, ça va nous conduire naturellement à expliquer pourquoi la soumission dans notre monde est source de souffrance et d'injustice. Pourquoi nous ne vivons pas selon ce que Dieu a dit. Ensuite, ça va nous conduire à pouvoir réfuter les fausses compréhensions pécheresses de la soumission et qui sont véhiculés dans notre monde et dans les différentes cultures, pour enfin redéfinir comment vivre cela dans le cadre du mariage. La soumission dans le mariage selon la pensée de Dieu. Il faut, pour nous, pour bien comprendre et aborder ce problème, revenir, comme je l'ai dit, à la personne, à l'être de Dieu et à ses plans parfaits. Faire abstraction de ce que nous connaissons et expérimentons pour regarder ce que dans les Écritures, Dieu nous dit qu'il a voulu créer et ce qu'il a fait et que tout cela vient de lui. Tout existe dans notre monde selon la volonté parfaite de Dieu lors de la création. Dieu est un être parfaitement bon. Ses qualités morales sont parfaites, sont saintes, exemptes de toute contradiction, exemptes de tout mal. Toute notion de mal est étrangère à l'être de Dieu. Dieu est infini dans l'expression de ses qualités. Dieu est parfaitement amour, Dieu est parfaitement juste, Dieu est parfaitement bon, Dieu est parfaitement bienveillant, Dieu est parfaitement sage, etc., etc. La conséquence est que tout ce qui existe a été créé par Dieu et donc est quelque chose qui nécessairement est bon. Dieu ne peut pas créer le mal puisque le mal n'est pas en lui. Tout ce que Dieu a créé était donc parfaitement bon puisque tout a été créé par lui et pour lui. La conséquence est que tout ce qui existe est assujetti, puisque Dieu, lui, est créateur et il est tout puissant, assujetti aux lois que Dieu a créées. Rien n'existe en soi, dans sa nature, dans son essence, je ne veux pas rentrer dans des débats de philosophie ou quoi, mais rien n'existe en soi, dès l'origine, créé par Dieu, qui soit mauvais. Si le mariage aujourd'hui peut être un véritable enfer et un calvaire, en soi, le mariage est bon. Mais le mariage, aujourd'hui, est devenu mauvais. Le viol, en soi, n'existe pas. Il est une perversion de quelque chose de bon qui a été créé. La sexualité entre un homme et une femme et qui a été créée dans un consentement mutuel, dans le cadre du mariage, pour refléter l'union, l'amour, où on est dans la générosité, le don, et on cherche avant tout à se donner à l'autre plutôt qu'un plaisir égoïste quitte à la violence et à traumatiser quelqu'un pour toute une vie. Vous voyez ce que je veux dire, j'espère. Rien en soi donc n'est mauvais dans son essence. Dieu a créé le monde matériel, mais aussi il a créé tout ce que l'on ne voit pas. Et bien entendu, on pense tout de suite, par exemple, aux lois de la nature. Il organise la vie par elle et la nature fonctionne indépendamment de nous. Je veux dire par là qu'un caillou tombera toujours sans que nous ayons un rôle à jouer dans le monde. D'accord ? C'est une loi que Dieu a créée, la pesanteur, Dieu a créé les lois de la thermodynamique, Dieu a créé l'ADN, Dieu a créé le vivant, etc., etc., les réactions chimiques, et celles-ci interviennent par Dieu lui-même directement et sans que nous ayons à intervenir. Et en plus des lois de la nature, Dieu a créé d'autres lois qu'on appelle plus communément des normes qui sont engageantes pour nous et qui ont un rôle dans la relation que nous avons avec lui. Ces normes nous font vivre. Ces normes sont tout ce que Dieu a placé en nous et qui nous permettent de refléter son image, qui nous permettent de lui ressembler. Dieu nous a créés avec des capacités intellectuelles. Nous sommes des êtres émotionnels, physiques, avec une intelligence, avec un sens, avec des capacités artistiques. Et l'amour, la vie, la société, la famille, la solidarité, l'État, la politique, le mariage, la pensée philosophique, tous les arts dans leur expression, les techniques, l'autorité, le travail, la soumission, etc. Toutes ces choses que Dieu a placées en nous pour développer sur la terre ce qui reflète Dieu. Puisque Dieu a en lui toutes ces qualités-là, a ces normes-là, et il nous les a transmises pour que dans notre relation avec lui, nous puissions lui ressembler dans tout ce que nous pouvons développer. Dieu est créateur et nous a donné des capacités pour que nous, sur terre, nous ayons un formidable terrain de jeu cette création avec toutes les lois pour les découvrir, expérimenter, développer des choses dans le cadre de cette relation avec Dieu. Et Dieu a donné, bien entendu, à l'homme et la femme, à l'humanité, une place tout à fait à part. Dieu nous a créés avec un certain ordre dans la création, où Dieu nous a placés en position d'autorité, d'ambassadeur, de gestionnaire de cette création qu'il a créée pour nous. Et nous sommes créés pour être à son service et que dans toutes les sphères de la vie humaine, nous puissions obéir à Dieu et développer pour notre joie et pour sa gloire, eh bien, le plan de Dieu pour nous. En tant que ses représentants, nous avons la responsabilité, nous sommes engagés à le refléter dans ses capacités. La responsabilité d'exercer la responsabilité de l'autorité sur Terre, sur toute la création. L'homme peut détruire la planète comme il veut. L'homme peut la faire prospérer et en tirer des bénéfices. Il nous a donné l'intelligence, la sensibilité pour développer des techniques. Il nous a donné la créativité pour tous les arts, la culture, etc. Il nous a donné les capacités de développer une agriculture, de faire des innovations technologiques. Voilà. Et souvent, chrétiens, on imagine que Adam et Ève seraient restés pour toujours tout nus dans un jardin. Et ce n'est pas du tout dans la pensée biblique. Le progrès, les capacités que Dieu nous a données auraient poussé de toute évidence l'homme à grandir, à développer toutes ces choses que je viens de dire, mais dans un cadre de collaboration et dans un cadre où le péché n'est pas manifesté, où simplement c'est le reflet de Dieu et toute sa gloire est représentée. Dieu a aussi créé et placé en nous les normes qui structurent et nourrissent les relations pour être à son image. Elles se distinguent dans la vie de tous les jours, dans le cadre de la création, entre masculinité, féminité, entre public, privé, autorité, soumission, subalterne, subordonné. Tout cela est normé par Dieu et soumis à ses desseins bienveillants. Et on ne peut aujourd'hui encore pas vivre sans, ni à contresens. Ce n'est pas possible, ça dysfonctionne. Des maîtres et des maîtresses ne peuvent pas demander et gérer des enfants en CP comme un cadre peut gérer une entreprise. Ça ne marche pas. On est obligé de respecter certaines règles qui sont innées au développement de l'humain et à ces stades de maturation que Dieu a créés et que Dieu a prévus. On ne dirige de la même manière, si quelqu'un essaie de diriger sa famille comme une entreprise, ça ne va pas marcher. Les relations professionnelles n'ont rien à voir avec les relations qu'on a au sein d'une fratrie, ou au sein d'une église, ou au sein d'un groupe d'amis. Voilà, si on se dirige avec ses amis comme un chef d'entreprise, ça ne marche pas. Et aujourd'hui, toutes ces relations sont dysfonctionnelles à cause du péché, et je vais y revenir. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que rien dans ces normes n'est arbitraire, rien dans ces normes n'est mauvais, mais elles répondent à un ordre créé par Dieu, vertueux, qui reflète ses propres caractéristiques. Et je voudrais insister là-dessus. Et pour moi, c'est l'argument clé. L'autorité et la soumission se manifestent en Dieu lui-même. Au sein de la Trinité s'exprime à la fois autorité et soumission. Au sein de la Trinité, où Dieu est un seul être divin et infini qui existe en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les trois sont infinis, les trois sont Dieu, Dieu est un seul, ils sont sans commencement. Mais il y a un seul Dieu, on ne peut pas diviser la Trinité et faire comme si c'était trois êtres différents. Ce n'est qu'un seul Dieu qui se révèle en trois personnes. Et il entretient en lui-même des relations personnelles, mutuelles, comme s'il était une communauté en lui-même d'amour, de service, d'autorité, de soumission depuis toute éternité. Les trois personnes de la Trinité ont la même dignité, puissance et doivent être adorées, respectées pareil par l'homme. Elles sont égales, mais ont des rôles différents. Dieu en lui-même vit depuis toute éternité et pour toute l'éternité à venir, la soumission et l'autorité selon les rôles que les personnes de la Trinité endossent. Par exemple, le Père ordonne, le Fils révèle et l'Esprit transforme dans cette collaboration-là. Le Père a conçu le plan de la création et a créé au travers du Fils. Le Père a créé et a envoyé le Fils pour nous sauver, et c'est le Fils et pas le Père qui est mort et qui sur la croix a dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus disait lui-même en Jean 6, « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et c'est la démonstration parfaite, et c'est un théologien, Karl Barth, qui disait que en se soumettant à son Père, Jésus n'a pas diminué sa dignité, et il l'a plutôt fait grandir et a révélé à quel point il était digne. Les implications sont donc fondamentales et concrètes pour nous. Premièrement, l'autorité n'est pas synonyme de supériorité. Le Père n'est pas supérieur au Fils, il n'est pas supérieur à l'Esprit, c'est des rôles différents, ils sont tous Dieu avec la même importance. La soumission, du coup, n'est pas synonyme d'infériorité, alors que notre monde dit que ça l'est. L'autorité et la soumission sont toutes deux volontaires, délibérées, intentionnelles et enrichissantes, et une bénédiction et une preuve d'amour au sein de l'être de la Trinité. Dieu fait tout pour sa propre gloire de toute éternité au sein de la Trinité. Le fait que Dieu vive en lui-même autorité et soumission démontre que, à valeur égale de personne, ne signifie pas rôle et responsabilité égale, nécessairement. Et j'en viens maintenant plus précisément au mariage, mais vous comprenez qu'il faut replacer le mariage dans le cadre global de qui est Dieu. C'est indispensable pour bien comprendre ça. Tout ce dont Dieu nous a dotés a pour but que nous lui ressemblions. Le mariage est une création de Dieu faisant partie de ses cadeaux qui servent à structurer des relations sur terre à son image, à tisser des liens qui reflètent ce qui se passe en Dieu lui-même. Dieu a créé l'homme et la femme donc à la fois semblables et dissemblables à son image. La masculinité est à l'image de Dieu. La féminité est à l'image de Dieu. Ils sont tous deux créés égaux en dignité. On sont tous les deux aussi importants et l'objet du même amour passionné par Dieu, mais ont des rôles qui sont différents alors qu'ils sont totalement égaux. Ils sont différents pour refléter des aspects différents, des qualités différentes, complémentaires de Dieu. Dieu a choisi de créer l'homme et sa masculinité et la femme avec sa féminité. Et les deux sont des choses excellentes et bonnes. En nous créant ainsi, il a créé les conditions d'une unité et d'une complémentarité qui se communiquent de l'amour à fond. Comme Dieu lui-même se communique à lui-même constamment énormément d'amour, que ce soit en exerçant l'autorité ou en exerçant la soumission. Et la vocation du mariage n'est pas juste qu'on se trouve un petit nid douillet et qu'on vive ensemble pour nous chrétiens et que ça soit romantique et que ça soit bien joli et confortable. C'est pas du tout ça. Paul rappelle que le mariage a un objectif qui dépasse tout entendement. Le mariage est là pour être à vocation d'illustrer la plus glorieuse et la plus belle des réalités, la plus belle des histoires d'amour, celle de Dieu qui sauve son peuple qui s'est détourné de lui, celle d'un Dieu qui se sacrifie par amour et qui vient sauver. C'est pour ça que Paul met en parallèle le rôle du mari avec celui de Christ et le rôle de la femme avec celui de l'Église. Femmes, soyez soumises chacune à votre mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Il crée un parallèle volontairement. Et un peu plus loin, dans la conclusion de tout ce passage, après il parle du mari et il conclut, en justifiant son raisonnement, en citant directement le récit du mariage, la loi donnée du mariage dans le livre de la Genèse, avant que le péché entre dans le monde, avant que tout soit abîmé, avant que tout soit corrompu, Paul dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, » dit Paul. C'est un mystère très grand et vous allez comprendre pourquoi. Paul dit, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Ainsi, pour Paul, le mariage est une métaphore, une illustration, une parabole qui représente quelque chose de plus qu'un homme et une femme qui s'aiment. Ça doit être une illustration de Dieu et de son peuple, de la relation qu'il y a entre eux. Il est fait pour illustrer la relation entre Christ et l'Église. C'est ça le sens le plus profond du mariage. Le mariage chrétien est censé être un théâtre sur terre, une représentation vivante de la relation entre Christ et l'Église. Geoffrey Bromilet dit ceci, et j'aime beaucoup cette formule. Comme Dieu a fait l'homme à son image, il a fait le mariage terrestre à l'image de son propre mariage éternel avec son peuple. Ainsi, Dieu a attribué à l'homme et à la femme des rôles complémentaires pour qu'ils puissent incarner les desseins de Dieu de la création, ses desseins originels, et être au bénéfice l'un de l'autre au sein du couple. Venons-en à ces rôles, plus spécifiquement dans le cadre du mariage selon la volonté de Dieu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai déjà prêché spécifiquement et chronologiquement, j'aurais voulu les faire plus rapprochés, mais d'abord sur le rôle du mari. Parce qu'avant de parler de soumission, il était important de parler du rôle du mari, et je voudrais simplement rappeler les trois points principaux de cette prédication que j'avais donnée et qui se retrouvent dans la suite du texte que nous voulons lire à partir du verset 25. Le mari a trois grandes responsabilités dans la parole de Dieu vis-à-vis de son épouse. La première, c'est d'aimer sa femme comme Jésus l'aime. Vous voyez le niveau comme la barre est haute. Un amour qui renonce devant rien, un amour qui est ardent, constant, qui se renouvelle jusqu'à se sacrifier pour elle, comme Christ s'est sacrifié pour nous. Un amour qui se sacrifie, un amour qui pardonne tout et qui demeure constant en toute occasion et qui est toujours bienveillant et au bénéfice de la guérison, de la restauration et des progrès de l'autre. Un rôle, la deuxième responsabilité, c'est de préparer sa femme à rencontrer Jésus. Le couple, les chrétiens se marient entre eux dans ce but-là spirituel. Le leader, dans le cadre du mariage, le mari a cette responsabilité devant Dieu de préparer sa femme, de tout faire dans sa vie pour que sa femme grandisse dans sa vie spirituelle. Parce qu'un jour, il la remettra à Christ qui est son véritable époux. Il doit veiller à la pureté de son foyer, l'encourager à être un modèle en vivant l'évangile lui-même dans toutes les sphères de la vie de couple. Il doit être le leader spirituel, le leader de la prière, de la lecture de la parole, de l'éducation selon la volonté de Dieu, des enfants, etc., etc. Il doit être à l'initiative de tout ça. C'est ça être un homme. Il doit prendre, troisième responsabilité, il doit prendre soin de sa femme comme lui-même, c'est-à-dire pourvoir à tous ses besoins matériels. C'est la concrétisation toute simple du deuxième commandement, aime ton prochain comme toi-même. C'est ça, appliqué au couple et dans tous les aspects de la vie de couple, le rôle du mari est de chercher avant tout le bien de sa femme et d'être au service de Dieu pour conduire son foyer dans les plans de Dieu et à la gloire de Dieu uniquement, pas à la sienne et pas à ses bénéfices propres. Le rôle de la femme, lui, comme le Paul l'exprime et ce que l'on voit là dans ce texte, c'est que à la femme revient le rôle depuis la création d'honorer et d'affirmer, d'affermir, d'encourager, de supporter le leadership de son mari, son autorité, en l'aidant à mener à bien les desseins de Dieu, les responsabilités que Dieu lui a confiées, dont lui il est redevable, et le supporter selon ses dons, sa personnalité et son contexte. Son rôle est d'aider son époux dans sa mission, dans une attitude de conseil, de soutien, mais pas de compétition pour savoir qui est le chef. Deux raisons sont données par Paul. La première, parce que le rôle de son mari est ordonné par Dieu et pas choisi par l'homme lui-même. Ce n'est pas l'homme qui choisit d'être le chef. Ça, c'est très important de le rappeler. C'est Dieu qui désigne les rôles dans le mariage. L'homme n'a qu'à accepter, n'a qu'à endosser ce rôle-là. Et deuxième raison, parce qu'au travers de cette soumission, la femme reconnaît qu'elle se soumet à Christ. Dans la soumission, la femme se soumet à Christ. Dans l'exercice de l'autorité, l'homme se soumet à Christ. L'homme et la femme reflètent des qualités que Christ a démontrées dans sa vie, de soumission et d'autorité. Les textes ne parlent pas des tâches, des répartitions, de la gestion des tâches dans les foyers, mais de l'attitude du cœur, qui est celui que doit être la soumission. L'homme doit montrer à sa femme qu'il sait où il va. Il imite Christ dans son comportement. Il fixe les objectifs et les priorités et il est le gardien des engagements du couple lors du mariage. Nous nous sommes engagés l'un envers l'autre, nous sommes engagés devant Dieu et je dois, à moi revient la responsabilité et Dieu me demandera des comptes si je ne conduis pas mon foyer selon l'appel que Dieu nous a adressé. Si je me laisse séduire par tout plein d'autres choses qui me proposent ce monde et ce siècle et que je détourne ma femme et du but que nous avons de refléter Dieu dans ce monde-là, alors Dieu me demandera des comptes. Il assume, l'homme, la mission que Dieu lui a confiée sur terre. La femme, elle, soutient, encourage, conseille et suit son mari. Et donc les conclusions que nous pouvons tirer de la perspective de la création, c'est que Dieu n'est pas nous défini et attribue les rôles au sein du mariage, que l'autorité et la soumission sont toutes deux volontaires et bénéfiques mutuellement, un enrichissement mutuel, et que l'autorité a été créée bonne et la soumission a été créée bonne. Nous en venons du coup au deuxième point, et maintenant ça va aller plus vite. Pourquoi donc ? Alors, la soumission est-elle source de souffrance et d'injustice dans notre monde ? L'homme a été créé pour vivre selon les normes de Dieu, que Dieu a fixées, que Dieu a définies. Dieu a défini, voilà ce que vous devez vivre, et me faire confiance que c'est ce qu'il y a de meilleur, et que c'est tout ce que vous devez connaître, et que j'ai choisi ça pour votre bien. Mais et l'homme qui ne veut plus vit rebellé contre Dieu, et a décidé de fixer ses propres normes, de décider lui-même ce qui est normal, anormal, bien ou mal. Et c'est un événement historique qui s'est produit lorsque Adam et Ève ont choisi de rejeter ce plan et ce cadre fixé par Dieu, ces normes établies par Dieu, pour définir eux-mêmes ce qui était bon et parfait. Et ce faisant, étant nos représentants, c'est-à-dire qu'à leur place, nous aurions fait exactement la même chose, eh bien, ils nous ont entraînés avec eux, sous la tentation de Satan, et entraîner non seulement nous, humains, mais tout ce que Dieu a créé, tout ce qui est visible et invisible, tout le cosmos, tout l'univers est contaminé par notre péché. Tout ce que Dieu a créé est bon. Et de même manière, le péché a tout contaminé. Les effets du péché se constatent donc dans toute la création. Nous le constatons dans nos vies, avec nos corps qui deviennent malades, nous le constatons par le mal qui est fait, nous le constatons intérieurement et nous le constatons dans les relations, dans la vie publique, dans la philosophie, dans les arts, dans la politique, dans toutes ces choses-là. Le péché crée une distorsion de ce que Dieu a créé. Il ne crée rien en lui-même. La soumission n'est pas apparue. La soumission de la femme à l'homme n'est pas apparue suite à la chute, suite à la désobéissance d'Adam et Ève. La soumission et l'autorité ont été totalement tordues, perverties. Imaginez une belle œuvre d'art et le péché vient et gribouille tout ça, déchire, abîme. L'œuvre originale est toujours présente, mais elle est abîmée, elle ne ressemble plus à ce qu'elle était. Et les effets sur mariage sont importants. C'est que le péché a détruit l'harmonie du mariage, la complémentarité, la symbiose qu'il y avait entre ces deux rôles et qui se passait à merveille dans le plan de Dieu et qui existait depuis la création maintenant, elles sont dysfonctionnelles. Et le récit de Genèse 3 montre tout de suite, on n'a pas le temps de l'aborder bien sûr, mais montre tout de suite la conséquence de cela. C'est que l'homme et la femme ne vivent plus selon les normes que Dieu a créées. Comme l'explique la déclaration de Danvers, qui est une déclaration évangélique, une confession de foi qui date de 1987, quand toutes ces questions de genre et de sexualité ont été abordées, elle dit ceci: « Dans le foyer, la direction humble et aimante du mari tend à être remplacée par la domination ou la passivité. Et la soumission volontaire et intelligente de l'épouse tend à être remplacé par l'usurpation ou la servilité. L'homme pêche de deux façons en général, ce que veut dire la déclaration de Danvers, c'est soit il transforme son autorité en domination et utilise les avantages naturels que Dieu lui a donnés, la force physique, etc., pour être un tyran auprès de sa femme et la dominer et l'exploiter, soit il rejette les responsabilités que Dieu lui a données, il a les pétoches et il n'est pas prêt à assumer son rôle dans son foyer et devient démissionnaire. Et la femme, elle, la tentation, ce que le péché a abîmé, c'est qu'elle voit cette autorité comme quelque chose qui la défie, qui la menace, et elle dénie ça, elle méprise, elle a tendance à avoir de l'arrogance et désire de prendre de la place ou d'accepter, mais par amertume et parce que vraiment elle n'a pas le choix, parce qu'il est plus fort qu'elle. Où elle rejette l'idée même qu'être une femme, que la féminité est un cadeau de Dieu. Et combien on entend, ah purée, vous avez de la chance, vous les hommes, de ne pas être une femme. Peter O'Brien a bien décelé ce mensonge, il dit que ceux qui exercent une autorité ont des rôles différents qui s'accompagnent, de plus grandes responsabilités, mais leurs rôles ne sont pas les meilleurs. D'avoir créé un rôle meilleur et un rôle moins bien, moins meilleur, moins avantageux, est le fruit, la conséquence de notre vision distordue de ce que Dieu a créé. Pas, le problème ne vient pas de ce que Dieu a créé, mais du péché qui est en nous. Et je pense qu'en France, nous Français, reconnaissons-le, une de nos caractéristiques culturelles, c'est qu'on a un problème avec l'autorité. On est bien d'accord. Hein, on est le peuple connu mondialement dans le monde pour avoir coupé la tête du roi. On aime élire des présidents qu'on déteste. On est les pros de la grève, on est les pros de la contestation. On est connu pour ça, on est des râleurs. On est des râleurs et culturellement, je trouve que ça se manifeste en tout cas dans notre société particulièrement. Et on met ça derrière de l'intellectualisme et de la philosophie et tout ça, mais on a un problème fondamental avec l'autorité. Dès lors, donc, le mot même de « soyez soumise » est tellement connoté négativement que l'employé, sans prendre le temps de l'expliquer, c'est un suicide intellectuel, c'est pas possible. Il n'y a pas longtemps, on discutait avec Aubery, qui est là, je te cite, et on parlait de ça ensemble, et il me disait, et il a raison, tu ne peux pas, dans une discussion au café avec tes copains et copines, et dire « ouais, ben, la femme, elle doit être soumise au mari », de but en blanc comme ça, enfin, c'est pas pensable. Parce que tout ce qu'on vit derrière n'a rien à voir avec le plan de Dieu et il faut remettre les bons présupposés qu'il y a derrière. Et ceci nous mène au point suivant, c'est qu'il faut réfuter les fausses compréhensions perverses, pécheresses de la soumission. Paul décrit dans ce texte l'idéal voulu par Dieu, ce vers quoi nous devons tendre. Et Paul écrit dans un contexte qui n'est pas un contexte de bisounours, dans un contexte où ça se passait super bien pour les femmes à l'époque. Croyez-moi, la condition de la femme dans la culture juive légaliste était terrible. Tous les jours, beaucoup de juifs se levaient en disant « Seigneur, je te remercie que je suis ni un païen, ni un chien, ni une femme ». Et dans l'Empire romain, elles n'avaient aucun droit, elles étaient méprisées. Et ce que Paul dit est complètement révolutionnaire pour les gens d'alors. Paul n'est pas un progressiste, ça n'a rien à voir avec ça, ni un humaniste qui dit qu'il faut passer à autre chose. Non, dans l'homme, il n'y a rien. Il faut plutôt revenir au plan original de Dieu, se repentir de notre désobéissance et vivre les rôles que Dieu a attribués à chacun dans l'obéissance. Et là, ça ira mieux. Et là, les relations seront restaurées. Ce que la soumission n'est pas. La femme n'est pas soumise aux hommes dans la société, dans la pensée biblique du monde. La femme est soumise à son mari. Ça se vit dans le cadre du mariage. Elle n'est soumise qu'à un seul mari. La soumission n'est pas propre à la féminité. Les hommes aussi doivent être soumis. Les hommes doivent être soumis à leur responsable dans le cadre du travail. Nous devons tous être soumis aux autorités que Dieu a placées pour notre bien. Les enfants doivent être soumis aux parents, qu'ils soient garçons ou filles. Mais la soumission de la femme, de l'épouse, se joue dans le rôle là du couple uniquement. Qu'un homme essaye de soumettre ma femme, D'abord, il aura affaire à moi, et ensuite, il aura affaire à elle. Et je vous dis qu'il faudrait mieux que ça se termine avec moi. Se soumettre, ce n'est pas s'humilier en se pliant à des exigences perverses. Se soumettre, ce n'est pas se faire exploiter. Soyons clairs, nos lunettes culturelles latines nous poussent à voir dans ce texte ce qui n'y est pas. Le texte ne parle pas des tâches ménagères, messieurs et Raphaël. Les rôles et les charges assumés au sein du foyer varient selon les cultures, selon les époques, selon les dons, selon les emplois du temps. Sauf pour le repassage. Là, je pense qu'il y a quand même une loi créationnelle où il y a un truc... voilà. Et c'est la seule chose que je fais à la maison. C'est pour ça que je dis ça. Il y a un truc qui... C'est pas fait pour moi, quoi. J'y arrive pas. Se soumettre, ça n'implique pas de servilité à un homme, que ce soit dans les domaines matériels, sexuels ou psychologiques. Ce n'est pas un renoncement à son intelligence. Ce n'est pas une obéissance irréfléchie ou décérébrée, ou derrière laquelle on pourrait même se cacher en disant bah, « de toute façon, c'est lui qui est responsable et moi je le suis, si lui il y va, moi je le suis bêtement comme un mouton de panurge ». Se soumettre, ce n'est pas renoncer à l'indépendance de pensée. Au contraire, c'est la mettre au service. Se soumettre, ce n'est pas renoncer à ses responsabilités devant Dieu. Au contraire, c'est les endosser. Il y a donc plein d'avertissements pour les deux sexes. Pour les deux sexes. Malheur aux maris. Malheur aux maris qui utilisent leur autorité que Dieu leur a confiée à leur propre dessein, égoïstement, comme des lâches, comme des traîtres des desseins de Dieu, comme des égoïstes qui sont plus gouvernés par les stéréotypes hollywoodiens de ce que doit être un homme avec des gros bras, des tatouages, être séducteur et être dominateur, au lieu d'être près de sa femme, à la servir, près de ses enfants, à s'occuper d'eux, à honorer sa femme sur son lieu de travail devant ses collègues, alors qu'ils sont tous en train de mépriser les femmes. Il jette la honte directement, puisqu'il doit refléter Christ sur Christ lui-même. Et c'est à lui qu'il devra rendre des comptes. Malheur à la femme qui se rebelle constamment devant son mari, qui publiquement essaye de le dénigrer ou de le rabaisser, qui dans les discussions avec ses copines est là à montrer une défiance de l'autorité que Dieu a confiée à son mari. C'est une défiance envers Christ qu'elle commet. Et elle jette l'opprobre sur la beauté de ce qu'est l'Église. J'y vais peut-être un peu fort, mais il faut qu'on réalise le témoignage que nous rendons publiquement par nos comportements dans notre monde qui est brisé. Il est question de Christ et de l'Église. On ne joue pas à un jeu de romantisme avec des lunettes teintées de rose sur un coucher de soleil au bord d'une plage. C'est bien plus beau que cela. Il n'est jamais permis à un homme de soumettre sa femme. Il n'est jamais demandé à un homme de soumettre sa femme. Il lui est ordonné de l'aimer inconditionnellement. En revanche, il est ordonné à la femme de se soumettre. Et combien de fois on voit des hommes qui ont pu dire dans l'histoire de l'Église, en prenant des textes complètement en dehors de leur contexte, en dehors de l'ensemble de la révélation et de tous les textes de la Bible, dire « Ah, ma femme, elle doit être soumise parce que Dieu l'a dit. Et du coup, ça me donne tous les droits. Même mon chien, je le respecte plus que ma femme. » Malheur aux hommes qui se comportent comme ça. Dieu s'est fait homme pour nous montrer quel est l'exercice de l'autorité et de la soumission sur terre. Et Christ, en s'incarnant, a été l'homme le plus homme de tous les hommes sur la terre. Ça a été le bonhomme le plus viril qui ait jamais existé. Et tous les stéréotypes qu'on a, c'est des caricatures, c'est des impostures. Et nous, hommes, devons regarder à Christ et chercher la virilité qu'avait Christ. Pas celle des clips de rap ou de je ne sais pas quel genre de modèle que nous pouvons avoir dans notre société. Et ceci nous amène au dernier point. Nous devons redéfinir donc comment vivre la soumission dans le cadre du mariage. Et ce qui nous redonne espoir à nous, chrétiens, c'est que nous savons que Dieu n'a pas abandonné sa création, les hommes, suite à leur rébellion. Il a dit, maintenant vous allez subir les conséquences. Mais il a dit aussi, je vais vous en sauver si vous revenez à moi. Il a envoyé son fils pour qu'il puisse réparer la relation que Adam et Ève avaient brisée, pour nous replacer sous son autorité, sous sa royauté et sous son conseil. Et comme le péché a un impact sur toute la création, la rédemption accomplie par Jésus à la croix a un impact sur toute la création et peut en restaurer tous les aspects. Et un jour, restaurera définitivement pour toujours le plan originel de Dieu, mais qui sera même magnifié, parce qu'il aura en plus de cela montré sa victoire sur Satan, sur le péché, sur notre rébellion et sur la mort. Jésus, à la croix, a établi son emprise sur la création et un jour, il reviendra pour accomplir la victoire complète et établir son règne définitif. Et en vivant aujourd'hui, en nous remettant ensemble dans nos couples, sous l'autorité de Jésus-Christ, par son esprit qui vit en nous, parce que lui va produire comme transformation en nous, grâce au pardon de nos péchés, grâce à l'obéissance et à la parole de Dieu qui nous est donnée pour réencoder tous ces dysfonctionnements-là, pour les réparer et restaurer, nous pouvons avoir l'espoir que même le couple qui est dans la pire des situations peut être restauré si ensemble les deux se rapprochent de Christ. Ensemble, ils se rapprocheront l'un de l'autre. Et je suis conscient que ce que je dis peut conduire à beaucoup de craintes. Parce que beaucoup, enfin, je pense que toutes les femmes d'entre nous se disent, facile à dire, mais c'est pas toi qui vis avec mon mari. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. C'est juste. Mais là encore, je vais peut-être vous choquer, mais la soumission n'est pas optionnelle. C'est un commandement donné par Dieu qui ne dépend pas des circonstances. Mais attention, je vais préciser. Elle n'est pas optionnelle car la soumission d'une femme à son mari fait partie intégrante de sa soumission à Christ, selon Paul. Elle manifeste sa confiance en Jésus-Christ en se soumettant à son mari. Mais la soumission est avant tout, et ça c'est très important, pas une question d'acte, mais d'attitude de cœur. Parce que dans la forme, on peut avoir une attitude qui apparaît comme étant soumission, mais dans le cœur et dans les messes basses, être constamment dans la rébellion. Et la soumission que la femme doit à son mari, elle n'est pas une soumission à cause d'une emprise extérieure et qu'elle ne choisit pas, mais elle est intérieure avant tout, volontaire et délibérée pour le bien de son couple. Trois exemples. Si votre mari est un mari qui vraiment sert Dieu, qui vit sa foi de façon intégrale, qui tend, que vous voyez se repentir quand il pêche, qui sait demander pardon, qui manifeste les fruits d'une vie transformée, qui est un homme de la parole de Dieu, qui la lit, qui la médite, qui encourage sa famille à vivre selon la volonté de Dieu, encouragez-le. Réfléchissez ensemble à ce que Dieu vous appelle à vivre en tant que couple et voyez comment vous, avec vos dons, vous pouvez aider votre mari à demeurer, à vivre encore plus cette vocation que Dieu vous a adressée. John Stott, qui a été pasteur pendant des années et des années, des décennies, disait qu'il n'a jamais rencontré une femme qui se dise irritée par un leadership qui ressemble à celui de Jésus-Christ, de la même façon que les disciples n'ont jamais été irrités par Jésus-Christ parce qu'il était toujours bienveillant envers elle. Si votre mari est un chrétien, mais que de toute évidence, la Bible reste poussiéreuse, que c'est juste de la façade pour le dimanche, ou juste de la tradition ou des habitudes, mais qu'il ne vit plus une relation vivante avec Dieu, que c'est devenu pour lui juste une tradition et des vieilles normes, et que c'est une obéissance qui est simplement d'apparence. Là encore, l'épouse doit être soumise, mais sa soumission aura une forme différente. Sa soumission se manifestera par le désir de reprendre son mari dans un désir d'encouragement et de bienveillance. J'illustre ça pour un homme, pour qu'il comprenne. Mon patron me dit, je vois mon patron qui fait une erreur ou qui est en train de se planter, mon devoir, si je suis responsable, est d'aller le voir et de lui dire, chef, vous faites une boulette et vous êtes en train de prendre le mauvais. Mais je ne m'adresserai pas à mon patron de la même manière que je m'adresserai à un pote ou à mon enfant que je vois faire une bêtise. Parce que la femme peut manifester et doit manifester son désaccord, mais tout en respectant et en reconnaissant que Dieu a établi des rôles qui sont différents. Marion me disait, quand je lui parlais de ça, elle m'a dit oui, mais c'est plus profond, avoir confiance en Dieu sur l'autorité qu'il a confiée à son mari et demeurer paisible. On accepte l'autorité parce qu'on sait qu'elle vient de Dieu. Et si le mari conduit délibérément son foyer dans la désobéissance et demande à sa femme et l'encourage à pécher, je ne sais pas, trichons sur les impôts, mentons à ceci, cachons cela, etc., ou qu'il la pousse à regarder des choses impures, à des choses perverses, etc., la soumission de la femme à son mari doit se manifester avant tout par sa soumission à Christ et dire, là, non, moi j'obéis à Christ, c'est à lui que j'appartiens et tu es en train de te fourvoyer et tu devras rendre des comptes pour ça, je vais prier pour toi, mais tu ne m'entraîneras pas. Vient le temps de conclure. Vous l'avez compris, vivre l'évangile est la seule réponse possible. Aucun mariage n'est trop en mauvais état pour être restauré par les mains de Dieu. Aucun. Christ est le secours et le modèle du mari et de la femme. Il est l'espoir pour les deux. Et à cause du but de mariage, qui est, je vous rappelle, de refléter la relation entre Dieu et son peuple, entre Christ et l'Église, vivre l'Évangile au quotidien, dans son foyer, et toutes les valeurs qui en découlent, c'est la base de la base. Certains disent le plus important, c'est la communication. Que dalle ! Si tu vis une communication qui est dénuée de l'Évangile, allez voir les cours des tribunaux, ils sont remplis de couples qui surcommuniquent, en se pourrissant. Vivre une communication empreinte de l'Évangile, de la grâce, du pardon, de la bienveillance, etc., etc. Si votre mariage n'a pas été fondé sur l'Évangile, la bonne nouvelle, c'est qu'il peut l'être dès aujourd'hui. Et je ne veux pas me voiler la face, des couples dans cette salle sont en souffrance, à cause du mari, à cause de la femme, à cause des deux. Ce n'est pas toujours constant, ça ne se passe pas toujours bien. Mais nous pouvons aujourd'hui revenir au dessein de Dieu et abandonner les idoles que nous poursuivons, se demander pardon mutuellement et revenir chacun à la place que Dieu nous a confiée. L'un des traits qui caractérise un homme qui fait cela, c'est que sa femme le voit se comporter de plus en plus à l'image de Christ. Et l'un des traits qui caractérise une femme qui est mariée et qui vit cela se caractérise par une femme qui ressemble de plus en plus à l'image de Christ. Je termine avec ces quelques mots de John Stott. Le don de soi à autrui implique une reconnaissance de sa valeur. En effet, le don de ma personne à quelqu'un présuppose que j'estime celui-ci tellement digne que je suis prêt à me sacrifier pour lui afin de lui permettre de développer plus pleinement encore sa propre personnalité. Or, perdre sa vie afin que l'autre trouve et accomplisse la sienne, c'est l'essence même de l'évangile de Christ. C'est aussi le fondement du mariage chrétien, dans lequel le mari aime sa femme et celle-ci se soumet à lui, chacun cherchant à valoriser l'autre dans l'harmonieuse complémentarité des sexes. Amen.